L'une des principales revendications des cahiers de doléances pour les États généraux de 1789 visait le régime féodal, dont on dénonçait les excès, les liens de dépendance qu'il créait et les charges qu'il imposait à ceux qu'on appelait en Normandie des vassaux. L'appellation même, d'ailleurs, peut surprendre quand on pense au Moyen-Âge et à ce qu'était un vassal par rapport aux chevaliers ou aux seigneurs. Et cela alors que le système de protection qui avait créé les liens de vassalité avait disparu. Il n'en subsistait plus qu'un certain nombre de termes qu'on rencontre encore à la fin du XVIIIe, j'ai dit vassal, foi et hommage, à quoi ça ressemble pour un paysan de prêter foi et hommage à son seigneur, le droit de ban, le fief, le haubert, la clameur féodale. C'est tout ce qui en subsiste dans le langage. Mais dans la réalité, à quoi correspond exactement une seigneurie à la veille de la Révolution? Pour faire simple, la propriété d'un ensemble foncier et immobilier et la puissance sur cet ensemble foncier. Et je vais essayer de répondre au cours de mon exposé aux questions, à quelques-unes des questions dont j'ai fait la liste. À quoi correspond encore sa seigneurie? Comment la connaît-on? Qui sont les seigneurs? Qu'imposent-ils à leurs vassaux? Que représente la propriété foncière du seigneur? En clair, la réserve qu'on appelle en Normandie le domaine non fiefé par opposition au domaine fiefé. Quelle est l'importance en superficie de cette réserve? Comment est-elle située dans l'espace seigneurial? Quelle est la part respective des différentes utilisations du sol? Ces répartitions sont-elles différentes de celles des terres des vassaux? Quel est le rapport financier de la réserve par rapport aux redevances seigneuriales, etc., etc.? On pourrait comme ça multiplier les questions. Il y en a une à laquelle je ne répondrai pas, c'est la répartition sociale de la propriété entre les différentes catégories, parce que ça m'amènerait trop loin, même si on va de temps en temps la sentir à travers les exemples que je vais donner. Quelques mots pour commencer sur les sources et la méthodologie que j'ai utilisée sur la seigneurie. Comment étudier la seigneurie? La nuit du 4 août 1789 voit l'abolition des privilèges et elle s'accompagne dans les mois qui suivent de la disparition progressive, ça ne s'est pas fait d'un seul coup, de la féodalité totalement détruite le 17 juillet 1793 seulement. Tous les droits féodaux, y compris ceux qui avaient été dans un premier temps déclarés rachetables, sont alors abolis et définitivement. Et pour empêcher un éventuel retour, l'article 6 de la loi de juillet 1993 oblige les ci-devant seigneurs, feudistes, commissaires à terrier, notaires ou autres dépositaires des titres constitutifs de seigneurie à les apporter dans les trois mois au siège de la municipalité du lieu. Ceux qui seront déposés avant le 10 août 1993, donc dans le mois qui suit la promulgation de la loi, seront brûlés ce jour-là. On en fera une grande fête sur la place publique. Et donc, par la même occasion, une bonne partie des sources intéressant la féodalité ont disparu, brûlées. Alors, comment étudier la seigneurie? En fait, tous les papiers féodaux n'ont pas été détruits, d'abord parce que certains les ont cachés. D'autre part, les seigneuries appartenant à l'Église avaient été confisquées en même temps que les domaines de celle-ci dès novembre 1789 et les papiers des évêchés, des monastères, des abbayes avaient été emmenés dans les chefs-lieux de district et dans les dépôts d'archives qui ont été créés à ce moment-là, dépôts qui ont accueilli en même temps d'ailleurs les bibliothèques de ces institutions religieuses. Les chartriers d'un certain nombre d'émigrés ont également rejoint ces mêmes dépôts dès les débuts de la Révolution. Et puis, certaines familles avaient conservé par devers elles des documents qui sont finalement allés à l'occasion dans les dépôts d'archives départementales ou nationales. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on dispose, sans compter les archives privées, qui peuvent subsister dans certains cas, on dispose d'un corpus relativement important, suffisant sans doute pour faire une étude. Alors, quels documents précisément? Les registres terriers, ouvrages reliés, parfois de très belle qualité, comme celui de la commanderie de Saint-Étienne de Renneville. Celui-là est donc de la région des Andelys. Alors, ces registres contiennent les lois et usages de la seigneurie, les droits et conditions des personnes et des biens fonds sur l'étendue de la seigneurie, les déclarations des censitaires qui prêtent à vœux, et là, voilà, de vous, François Jacques Chou de Biancourt, écuyer, secrétaire de Madame la Dauphine, etc. Je, Pierre Sevestre, prêtre curé de la paroisse, tiens, confesse et déclare tenir de vous, Monseigneur, selon un langage qui peut paraître surprenant encore à la fin du XVIIIe siècle. En voilà un autre. Celui-ci, c'est dans la région de Breteuil, vers le sud du département de l'Eure, où un cloutier, demeurant au village des Miquelots, paroisse de Breteuil, tient, confesse et à vous tenir, etc. Ces terriers, ces registres terriers, peuvent être complétés, relayés par d'autres documents du même style, les gages-plèges notamment, qui sont rédigés lors de la réunion annuelle des censitaires de la seigneurie, les cueilloirs qui représentent à peu près la même chose, où les vassaux viennent dire qu'ils doivent tel sens au seigneur, des dénombrements, et puis j'ai mis le plan. Alors, malheureusement, d'une certaine façon, il faut bien constater qu'aux archives départementales de l'Eure, je me suis limité à elles, pour les temps les plus anciens, on n'a pas grand-chose ou seulement des fragments, alors que la très grande majorité des documents sont de la seconde moitié du XVIIIe siècle, ce qui renforce l'idée qu'il y a eu une réaction féodale à la veille de la Révolution. Oui, en partie, mais ça serait oublier qu'il fallait refaire les registres terriers tous les 25 ans au maximum. Donc, ça correspond aussi à une période de renouvellement, et ce sont les derniers registres qui avaient été rédigés, donc c'est assez logique qu'on les ait. Alors certaines seigneuries ont la chance d'avoir une série renouvelée importante, comme la commanderie de Renneville, dont j'ai montré tout à l'heure la page de couverture. Certaines zones sont mieux desservies que d'autres aussi. On voit que le Vexin normand est assez bien représenté. En fait, ça correspond surtout à des seigneuries qui appartiennent à une famille, les Bois d'Ennemay, qui ont dû donner leurs archives au XIXe siècle. Et puis, il y en a un petit peu dans la région de Danville, parce que là, le duché de Danville a vu également son chartrier confisqué, déposé aux archives. On a quelques documents épars ailleurs, en remarquant quand même que l'ouest du département est peu fourni, ce qui est un peu dommage, parce que ça correspond au niveau du paysage rural et de l'exploitation agricole, à quelque chose de différent des autres régions qui sont des régions de campagne, d'open field, on va dire, pour faire plus simple. Alors, à côté des registres, il y a des plans. Des plans qui sont pour certains de véritables œuvres d'art. Alors, en dehors de ces documents que j'ai évoqués, registres terriers et plans qui se trouvent aux archives de l'Eure, je dois ajouter qu'il y a des documents intéressants, les seigneuries de l'Eure, ailleurs. Il y en a aux archives nationales, il y en a au cabinet des Estampes, il y en a aux archives départementales de Rouen, notamment parce que l'archevêque de Rouen était seigneur de plusieurs endroits dans notre département. Il y en a à Caen, il y en a à Alençon, il y en a dans les communes aussi, à la mairie de Lahaye-Malherbe, si vous avez la chance d'y aller, se trouve à une dizaine de kilomètres de Louviers, dans la salle du conseil municipal, il y a un plan terrier qui est affiché au mur. Il est bien conservé pour l'instant, espérons qu'il le restera. Bref, on a quand même, je disais tout à l'heure, une documentation inégalement répartie dans le temps, inégalement répartie dans l'espace, mais suffisamment abondante, à mon sentiment, pour caractériser la seigneurie dans ses différents aspects. Et j'en arrive au deuxième point que je vais évoquer aussi rapidement, la seigneurie par elle-même. Qui est seigneur? N'importe qui. Des nobles, bien sûr, des institutions ecclésiastiques, évêchés, abbayes, chapitres, prieurés, et puis des roturiers. Avec un véritable imbroglio à l'occasion entre les seigneuries, on en a déjà une petite idée avec l'exemple de Véli, où on voit qu'il y a des C, des M, des D, des P, des T qui se succèdent parfois. Ici, on est à Houlbec, dans la vallée de l'Eure, plus connue à cause de Cocherel, qu'on associe généralement au nom d'Houlbec à cause de la bataille remportée par Duguesclin, n'est-ce pas? à moins qu'on ne pense à Aristide Briand qui est enterré dans ce village. Là, les deux seigneuries d'Houlbec, la salle et le pré, sont assez nettement séparées, on va dire d'une façon générale. Ici, alors là, c'est du bricolage, c'est au crayon de couleur, hein, j'ai photographié. On peut voir quand même que la seigneurie de Caen, qui est en blanc, est globalement à droite, je ne dis pas à l'est parce que la flèche indiquant le nord est vers le bas, et que la seigneurie de Senoncourt est davantage située sur la gauche du plan. Donc là, on a encore une assez grande séparation. On revient à une situation d'éclatement à Écouy, qui se trouve aussi dans le Vexin normand, où là, il y a six seigneuries. Celle qui est en blanc, c'est celle du chapitre qui appartient au chapitre d'Écouy, très puissant dans cette région. Ce fut le chapitre créé par Enguerrand de Marigny au Moyen-Âge. Et il y a les autres seigneuries donc, dont les parcelles sont à l'occasion dispersées. Gisancourt se trouve dans le livre dont a parlé Jean-Marc tout à l'heure. Là, on a également plusieurs seigneuries, mais qui sont assez nettement individualisées les unes par rapport aux autres. Je vous ai montré le cas de Véli, qui est le cas le plus extraordinaire. Il doit y avoir 1800 parcelles quand même. Hein. Il a fallu dessiner les unes avec les autres et affecter aux différentes seigneuries avant de les affecter aux différents propriétaires. Ne pas oublier non plus qu'il peut y avoir dans certains cas une hiérarchie féodale avec des seigneuries supérieures et des seigneuries inférieures qui ont des obligations envers le seigneur principal. Alors j'ai dit tout à l'heure que la seigneurie était transmise n'importe comment, oui, elle s'achète, elle se vend, s'échange, se transmet par héritage, etc. Elle peut rester longtemps dans la même famille. On a des exemples de seigneuries qui sont restées dans la même famille du XIVe siècle à la fin du XVIIIe, et puis des exemples où la seigneurie change presque tout le temps. J'ai donné, voyez, cet exemple-là d'Houlbec-le-Pré, où ça change quand même. Il y a d'abord Pierre de Mancini, puis la seigneurie a été acquise environ 150-160 ans plus tard par Jean d'Estanson, qui la transmet à ses enfants, mais un siècle plus tard, elle est de nouveau vendue, et à la fin du XVIIe siècle, elle passe au comte de Beuzeville de la Luzerne, qui l'a achetée, qui la transmet à son neveu, qui la revend, lui, 41 ans plus tard, ce dernier ne la gardant que 28 ans, et à la veille de la Révolution, c'est donc Choux de Biancourt, secrétaire ordinaire de la Dauphine, qui est titulaire de la seigneurie. Il y avait deux seigneuries sur Houlbec, la Salle et le Pré. De temps en temps, elles sont réunies. De temps en temps, elles vont à des propriétaires différents. Alors, la seigneurie, j'ai dit tout à l'heure, c'était une propriété d'un domaine et les droits que donne l'autorité sur ce domaine. Je ne vais pas épiloguer longuement là-dessus, simplement pour rappel, les droits et honneurs dus à un seigneur, celui d'Houlbec-le-Pré. On retrouve peu ou prou les mêmes choses pour les différentes seigneuries. Des droits de patronage, c'est-à-dire nomination du curé ou du vicaire, le droit de banc dans l'église, le droit d'y être enterré à l'occasion, les droits de relief de 13e qui sont des droits perçus sur la transmission des propriétés en héritage ou lors d'achat-vente. Les mêmes mariages, deux pots de vin et une épaule de mouton, ce qui a fait dire à certains qu'à la fin du XVIIIe siècle, il y avait encore le droit de puissage qui s'exerçait d'une façon ou d'une autre. C'est sans doute complètement faux d'ailleurs. Mais surtout au XVIIIe siècle. Les droits de banalité, les droits de prélever de l'argent sur ceux qui utilisaient la forêt. Houlbec Cocherel était célèbre pour ses carrières de meules. Ce n'était pas la qualité de celle de la Ferté-sous-Jouarre, mais donc le seigneur prélevait un droit sur les meules qui étaient extraites de la forêt, le droit de champard rendu en la grange. Alors, il pouvait y avoir d'autres droits, je les ai énumérés en bas, le droit de justice, la dîme à l'occasion, des droits perçus au hall, l'obligation pour les vassaux de comparaître au plaies et gâche-plaies, de nettoyer la grange, à l'occasion apporter un lit pour le seigneur. Ces redevances étendues à différentes époques de l'année avec des périodes quand même favorites, en l'occurrence Noël. C'était généralement les volailles, pas les dindes, mais les poulets. À Pâques, des œufs. À la Saint-Michel, c'était en général des céréales, ce qui était normal puisque c'était un peu après les récoltes, mais il pouvait y avoir d'autres dates auxquelles on devait verser en argent ou en nature ces sens recognitifs de seigneurie. Alors, j'ai évoqué quelques-uns des produits qui étaient donnés. On en trouve de tout, n'importe quoi, j'allais dire du poivre. On peut quand même se demander comment les gens de l'heure se procuraient le poivre qu'ils devaient donner chaque année à leur seigneur. Un gant, pourquoi un seul et pas deux? Une rose, un étrier, une tarte à la crème aussi j'ai trouvé, et même des oranges. Pourtant le seigneur n'était pas en prison. Alors je vais m'intéresser plus spécialement quand même à la réserve seigneuriale et d'abord à sa place dans la seigneurie. Au préalable, ce tableau qui évoque quelques seigneuries et leur taille respective. La seigneurie la plus importante, celle de la Boulaye à Auteuil, dans la vallée d'Eure, fait 1356 hectares. Et la plus petite, celle qui est en bas, mais il y en a encore de plus petites, celle du Hêtrey à Rougemontier, en fait 30. La taille des seigneuries est donc fort variable. Mais à l'intérieur de la seigneurie, il est important de savoir quelle est la place que représente ce qui appartient personnellement, en propre, au seigneur, et qu'on appelle la réserve, ou en Normandie, je l'ai dit tout à l'heure, le domaine non fiefé, par opposition au domaine fiefé, sur lequel le seigneur a ce qu'on appelle la propriété éminente, et ce pourquoi les vassaux doivent un certain nombre d'obligations, en argent ou en nature, dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors la seigneurie est plus ou moins vaste. Donc, elle peut correspondre à une paroisse, ce qui facilite assez bien les choses et l'étude. C'est le cas, en gros, à Auteuil, à Corneuil, Yville, Piseux. Pour les dernières seigneuries, ce n'est pas du tout le cas, puisque le Hêtrey, c'est une toute petite partie de la paroisse de Rougemontier. Berceloup, c'est une seigneurie urbaine qui ne comprend qu'une toute petite partie de la ville de Louvain. Alors, si on regarde maintenant quelle est la part qui appartient personnellement au seigneur, eh bien, ça peut être la totalité, dans certains cas. Toute la seigneurie est la propriété personnelle du seigneur, il n'y a pas de vassal. C'est en général le cas des petites seigneuries. La plupart du temps, le seigneur possède une part importante, plus ou moins, de celle-ci. Je laisse à part le cas de Louviers où le seigneur de Berceloup possède 98% de l'espace, mais c'est un cas particulier, c'est une petite seigneurie. On est à Haute-Verne dans le Vexin à 64%, à Château-sur-Epte, on n'est plus dans le même Vexin et tout à côté, on n'est plus qu'à 39%. Il y a des pourcentages qui sont donc très variables. Le record en moins, si je puis dire, étant à Mandeville, qui est une commune du plateau du Neubourg, où le seigneur qui est le chapitre de Rouen possède 1% de la superficie de la seigneurie. Ça peut donc être très variable d'une seigneurie à l'autre. Pour l'ensemble des seigneuries que j'ai étudiées, et je l'ai mis en bas du tableau, en moyenne par seigneurie, la partie qui appartient en propre au seigneur représente 33,3% de l'espace. Voilà, c'est un chiffre brut, avec systématiquement des immeubles particuliers, ce qu'on appelle le chef-mois de la seigneurie, le château ou le manoir où réside le seigneur, la basse-cour, pas les volailles, mais les bâtiments de la ferme qui dépendent systématiquement du manoir seigneurial, un colombier, puisque c'est un privilège seigneurial aussi, et un moulin qui, naturellement, lorsqu'il existe, parce qu'il n'existe pas toujours, est banal. Il peut y avoir d'autres immeubles, il peut y avoir plusieurs exploitations agricoles, il peut y avoir plusieurs moulins, il peut y avoir des halles, il peut y avoir des maisons aussi, tout dépend de l'étendue de la seigneurie et de sa composition. Le sol de la seigneurie, de la paroisse en même temps, est utilisé de différentes façons. Alors, j'ai sur un certain nombre de plans, et c'est l'essentiel de ma démonstration de maintenant, vous montrer toute une série de plans sur lesquels on va retrouver l'occupation du sol et d'autres après les propriétaires. Alors l'occupation du sol varie d'une seigneurie à l'autre en fonction naturellement de la situation géographique et de la qualité du sol. on n'aura pas du tout les mêmes utilisations du sol selon qu'on se trouve dans le riche Vexin normand plateau limoneux, dans une vallée, ou dans le pays d'Ouche, par exemple, ou dans une région où il y a des versants de vallée. J'ai dit tout à l'heure que sur la carte que j'ai montrée, je n'avais pratiquement pas d'exemple, les archives n'en ont pas, sur la partie ouest du département. Or, c'est celle où se trouvent des régions de bocage. Et donc, je n'ai pas tellement d'éléments de comparaison possibles. Les quelques seigneuries que j'ai sur l'ouest du département sont de très petites seigneuries et ne sont pas significatives. Alors ici, on est à Houlbec, donc dans la vallée de l'Eure, avec des bois en périphérie, quelques bois dispersés aussi, pratiquement pas de prés, on est sur un plateau, et une importante quantité de bruyères, de landes, de terres en friche. À Caen, là on voit moins bien, des bois, il n'y en a quasiment pas, un ou une ou deux parcelles de bois, quelques parcelles de prés également, et puis des marais qui sont d'ailleurs les biens, les terrains communaux des habitants du village. On est dans le plateau du Vexin limoneux, ce sont les labours qui prédominent très nettement. Alors ici on est dans la vallée de l'Epte, à la limite du Vexin normand, il y a la rivière qui est tout à fait à l'est, des prés dans la vallée, pratiquement pas de bois, et tout le reste, on est sur le plateau. Ce sont des labours qui entourent le manoir seigneurial, qui est un château fort encore aujourd'hui, dont il reste des traces assez importantes. Ça s'appelle Château-sur-Epte, ce n'est pas tout à fait un hasard, et ça fait partie de la ligne de fortification qui séparait la Normandie de la France. Ici, on est encore dans la vallée de l'Epte, avec des prairies, quelques prairies, des bois assez importants. La partie qui est en marron un peu plus clair, ce sont des terrains communaux. C'est assez curieux, mais il n'y a de terrains communaux dans l'Eure que sur la rive droite de la Seine, dans le Vexin. Alors ici, on change de région à Danville, vers le sud du département. Un cours de rivière encore, c'est Liton. On voit la ville de Danville, la petite ville de Danville qui se trouve à droite, et des prairies dans la vallée, quelques bois, qui pourrait laisser comme indication qu'il n'y a quasiment pas de bois dans le département, ce qui est naturellement faux, je vais y revenir tout à l'heure. Piseux, on est encore plus au sud du département, on est à côté de Verneuil-sur-Avre, où là, il n'y a presque pas de prés, ce sont des pâtures, même, ne sont pas indiquées comme prés, pratiquement pas de bois non plus, pratiquement pas de landes et de friches, on utilise au maximum l'espace qui est consacré au labour. À Auteuil, dans la vallée de l'Eure, une originalité. Alors là, il y a beaucoup de bois. On les voit dans la partie, le tiers gauche du plan. Il y a des vignes qui sont représentées en rouge sur la photo, sur les côtés. Alors on retrouve là le schéma assez traditionnel d'une paroisse seigneuriale située en vallée, les prés dans la vallée, de chaque côté de la rivière. Les vignes sur les premières pentes du coteau, des labours au-dessus, en haut du versant, la forêt, et puis on retrouve le plateau, en l'occurrence le plateau de Madry, où se retrouvent des labours. Le seul plan assez complet dont je dispose dans l'ouest du département, c'est celui de Hauteville. Enfin, quand je dis dans l'ouest, c'est limite d'ailleurs, puisque c'est dans le Roumois, ça se trouve à côté de Routeau, ouais, voilà. Donc c'est bien dans le Roumois, où là l'habitat est complètement éclaté, parce qu'on est dans une région d'habitat dispersé, avec des masures qui sont dispersées sur l'ensemble du territoire communal. Il n'y a qu'un bois tout à fait à gauche, en bas à gauche, dans cette commune. Alors en fait, je vais quand même corriger. Si on a l'impression qu'il y a essentiellement et presque uniquement des labours, cela tient à l'échantillon que j'ai. Et quand je suis dans le Vexin normand, c'est assez logique qu'il y ait une très grande majorité de labours. Ça peut atteindre les 70, 80, 90%. Il y a à l'occasion quand même des bois qui peuvent, dans certains cas, représenter un tiers de l'utilisation du sol, voire davantage. Mais ce sont des cas particuliers. il n'y a presque pratiquement pas de prés, sauf exception lorsqu'il y a une vallée importante, puisqu'il n'y a pas de prés sur les plateaux. Alors, j'ai essayé sur ce tableau de faire une synthèse pour l'ensemble des seigneuries, je passe sur le détail des chiffres, pour l'ensemble des seigneuries, en pourcentage des sols, les labours en représentent 62%, on va dire presque deux tiers, les bois 21,7%, un peu plus du cinquième, les prés moins de 5%, on peut y ajouter les pâtures, les friches près de 10% quand même, les masures ou autres utilisations n'en représentant que 1,5%. On va passer à un autre aspect maintenant qui est celui de la taille et de la disposition des parcelles. Alors voilà un exemple, celui d'Iville à côté du Neubourg, où le parcellaire est très complexe, il doit y avoir 2500 parcelles sur le plan, ce qui donne aussi une idée de la taille respective des parcelles. Au passage, je fais remarquer que le domaine fiefé, le domaine non fiefé appartenant au seigneur, c'est-à-dire sa propriété personnelle, est excessivement faible et qu'il ne se distingue pas particulièrement par rapport aux autres propriétaires, dont certains d'ailleurs sont beaucoup plus riches que lui. Autre exemple de parcellaire très dispersé, ici on est à Saint-Laurent-des-Bois, ça se trouve à côté de Vernon, non, à côté de Saint-André-de-l'Eure, pardon, dans le sud du département, où on a également de multiples parcelles, y compris celle du seigneur qui s'appelle Monsieur de Couville. Ce sont les parcelles qui sont en bleuté, qu'on voit un petit peu partout. Elles sont complètement dispersées et ces parcelles sont petites. En moyenne, le seigneur a des parcelles qui font 0,5 hectares. Voilà un schéma qui est celui d'ailleurs de la paroisse précédente d'Iville. Au contraire, on va retrouver des situations différentes avec des parcelles ici nettement plus grandes, comme à Écouy, en plein milieu du Vexin, le seigneur ne possédant quant à lui que cette grande parcelle en marron au milieu du village avec le manoir seigneurial. C'est tout ce qu'il possède. Mais le chapitre, qui est le seigneur principal d'Écouy, possède de très nombreuses parcelles séparées les unes des autres, mais qui lui appartiennent quand même toutes à l'occasion, ce qui fait qu'on voit en particulier vers le haut à gauche toutes ces parcelles laniérées qui sont la propriété personnelle du chapitre. Les autres propriétaires, j'ai mis la propriété d'un certain Lefebvre, sont plus dispersées que celles du chapitre ou celles d'un autre seigneur Pavio. Là, c'est bien compliqué. Donc, je vais passer pour en arriver à celle de Vély, où j'ai représenté en noir la propriété de l'église. Alors, il y a plusieurs propriétaires ecclésiastiques. Il y a l'abbaye de Marmoutier, notamment, il y a la chartreuse de Paris, il y a le prieuré de Vély, et puis il y a quelques autres propriétaires ecclésiastiques. Et il y a les propriétés d'un certain nombre de personnes. Le seigneur du Tailly, qui s'appelle Lefebvre Lozeray, sa femme, les frères de sa femme, et puis un fleuri qui est également seigneur, et Michel Lefebvre. Et finalement, bien, même si on n'y voit rien, il faut être clair, dans ces 1800 parcelles, surtout de loin, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une très grande dispersion de la propriété personnelle des principaux seigneurs, puisque Lefebvre Lozeray et Fleuris, notamment, sont deux des seigneurs de la paroisse. Là aussi, on est en présence d'une dispersion, d'un parcellaire toujours très géométrique. Ce sont les propriétaires de la commune de la paroisse de Boifle qui se trouve dans la vallée de la Seine. En revanche, dans le cas d'Amécourt, on a un autre cas de figure. On est de nouveau dans le Vexin, avec la propriété du seigneur local. Il s'appelle aussi Lefebvre, mais Lefebvre d'Amécourt, il est conseiller au Parlement, il est écuyer, il possède une bonne partie de la paroisse, comme on peut le voir, et ses biens sont relativement groupés. Ils se trouvent presque tous dans la partie droite du plan, avec quelques prés dans la vallée de l'Epte. Autre exemple de terre regroupée, de réserve seigneuriale regroupée, ici c'est une ferme simplement, dont les parcelles sont à peu près toutes d'un seul tenant. Il y en a quand même quelques-unes qui sont un peu plus éloignées. On est là à côté du Neubourg. Et on peut continuer. C'est encore une ferme dépendant de la commanderie de Renneville, avec une très grande parcelle. À Château-sur-Epte, dans la vallée du même nom, les biens du seigneur sont relativement groupés. Il possède, fait remarquer au passage, pratiquement tous les prés qui sont dans la vallée. Il possède aussi tous les bois, mais il n'y en a pas beaucoup. Et il a des terres un peu partout sur le plateau, avec des parcelles qui ont tendance à être plus grandes que celles des autres propriétaires. On retrouve ici une tendance au regroupement pour le propriétaire du fief du Pré à Houlbec. C'est ce qui est en vert. Et il faut y ajouter ce qui est en bleu ciel, la ferme de la Moinerie, qui appartient également au propre seigneur, alors que son homologue du fief La Salle a des biens d'abord moins importants et plus dispersés. Donc on peut retrouver à l'occasion sur une même paroisse des situations différentes. Je vais passer là-dessus pour arriver à ce cas paraît plus intéressant, celui de Piseux. On est, dit tout à l'heure, à côté de Verneuil, dans le sud du département, où on voit des terres propriétés du seigneur regroupées. Elles sont à l'ouest, au nord-ouest. Propriété également regroupée de Madame de Lavarde, il y a quelque chose qui a sauté à l'impression, mais tant pis pour son nom. Surtout dans la partie centre-nord, mais elle a des parcelles un peu partout. Et on retrouve la même chose pour la propriété d'un roturier qui n'est absolument pas seigneur, Moulinet, qui est en bleu, a également toutes ses parcelles regroupées. On va passer sur Beaucherville. Le cas de Hauville, qui se trouve également dans le livre dont a parlé Jean-Marc tout à l'heure, avec de très nombreuses seigneuries imbriquées les unes dans les autres, mais où on distingue quand même que les terres d'un seigneur sont regroupées autour de son manoir seigneurial, y compris lorsque, comme Maignard de la Vaupalière, il possède plusieurs seigneuries au nord, La Haule, au sud-est, Thibouville, ou au centre-ouest, Colteau, par exemple, avec à chaque fois un moulin à vent, d'ailleurs. Ben, sur l'exemple, voilà celui d'une abbaye, l'abbaye de Peruel dans la vallée de l'Andelle, où tous les biens sont, presque tous les biens sont également regroupés. Encore un exemple, celui de Coulonges à côté de Danville, où les biens du seigneur, qui sont en violet, sont assez regroupés, mais sur ce qui m'intéresse là davantage, c'est le fait que ce sont surtout des très grandes parcelles. Voilà encore d'autres exemples. On peut les multiplier en quelque sorte. Ici aussi, on a des tendances de regroupement de parcelles. Et je vais arriver vers la fin à ce plan qui est assez extraordinaire. C'est Saint-Vincent-des-Bois, c'est à côté de Vernon, quelques kilomètres au sud de Vernon. Il y a un seigneur qui possède en marron énormément de terres, ça se voit très nettement, regroupé et un peu dispersé, mais il écrase de sa propriété, en tout cas la paroisse de Saint-Laurent-des-Bois, de Saint-Vincent-des-Bois. Et puis, tout à fait à l'est, il y a ce petit truc rajouté, là, dont je vais faire un agrandissement qui dénote, ça paraît bizarre. Alors voilà le plan tel qu'il est dans le registre terrier. Et ce plan est extraordinaire, relativement unique dans l'heure, parce que on voit bien la ferme au centre, le bois à proximité de la ferme, les pâturages, les friches, dites communes, mais qui en fait appartiennent à la commanderie de Bois-Hibou, ce n'est pas du tout les communaux des habitants. Et puis il y a les trois sols, c'est le schéma qu'on trouvait dans tous les manuels, l'équivalent qu'on trouvait dans tous les manuels d'élèves de quatrième ou de seconde, avec la sole en blé, la sole en mars et la sole en jachère. Et puis, tout à fait à côté de la ferme, mais vous ne pouvez pas le lire, il y a un petit champ bien particulier où il y a marqué Luzerne dessus. Et il y a donc, on est vers la fin du XVIIIe siècle, c'est 1771, je crois ce plan, on est en présence d'un progrès agricole dans un espace relativement limité. Alors j'ai essayé aussi de comparer l'utilisation du sol avec les propriétaires, pour essayer de voir si ça donnait quelque chose de probant. Oui, dans la mesure où j'ai trouvé que les bois appartiennent au seigneur. J'allais dire, ce n'est pas la peine d'être grand devin pour le vérifier. Pour les prés, il en a quelques-uns. Oui, à Amécourt, dans la vallée de l'Epte, mais à Château-sur-Epte, dans la même vallée, son voisin possède pratiquement tous les prés, donc on ne peut pas en tirer de conclusion. À Saint-Cyr-la-Campagne, où j'ai essayé de comparer, alors en marron ce sont les bois qui sont assez importants, Saint-Cyr-la-Campagne se trouve à côté d'Elbeuf, mais dans l'Eure. Le seigneur possède bien la majeure partie des bois, mais il ne possède qu'une petite partie des prés, donc là encore, si on note l'importance des bois dans la réserve, réservée par tradition au seigneur, c'est moins vrai pour les prés. Quant aux cultures, il en a largement, mais les autres propriétaires également. Dernier point que j'aurais voulu et que je vais évoquer très rapidement, assiste-t-on à une augmentation ou une diminution de la réserve, de la propriété du seigneur? Et c'est là qu'est quand même le problème, parce que la réserve ne se confondait pas nécessairement avec la propriété personnelle du seigneur. Mais certains, en faisant des achats, agrandissent leur réserve, incorporent à la réserve ces biens qu'ils achètent. À l'inverse, lorsqu'ils vendent une partie de leurs biens, ils peuvent également contribuer à la diminution de leur propre réserve. On a la preuve, dans certains cas, que le seigneur de Vendrimard, se trouve dans la vallée de l'Andel, le seigneur de Vendrimard a incorporé au milieu du XVIIe siècle 13 parcelles et 10 hectares à sa réserve. C'est écrit noir sur blanc dans un des registres, là on en a la preuve. Et effectivement, il vend ensuite l'ensemble, avec tous ses biens propres, quelques décennies plus tard. Mais dans d'autres cas, on ignore complètement si les biens font partie de la réserve, ou sont intégrés à la réserve ou pas. On a très peu d'exemples pour pouvoir juger de l'accroissement de celle-ci. À Auteuil, mais je pense qu'il y a un plan qui est peut-être plus facile à voir là, on voit l'ancien domaine du seigneur, domaine fiefé et domaine non fiefé, et ses acquisitions récentes. Ce sont dans la partie supérieure, mais il y en a également un peu à gauche du plan, les parcelles qui sont en gris clair. Il y a eu incontestablement là accroissement de la réserve, et dans un domaine un peu particulier, si on regarde vers le centre nord de la photo, ce sont surtout des vignes qu'il a achetées. Il en avait déjà quelques-unes, il a rajouté un certain nombre de vignes. Enfin, que rapporte la réserve par rapport aux redevances seigneuriales? Sur ce tableau, j'ai figuré un certain nombre de rapports de seigneurie, mais il faudrait, pour être honnête et complet, transcrire toutes les redevances en nature, plutôt évaluer les redevances en nature et les ajouter aux redevances en argent, ce qui majorerait sensiblement la colonne de gauche des livres sous et deniers. Pour Corneuil, qui est tout en haut, on passe de 120 à 360 livres avec les redevances en nature, par exemple. Et dans d'autres cas, c'est beaucoup plus, effectivement, que le chiffre indiqué dans la première colonne en argent. Alors, qu'est-ce que ça représente par rapport au prix de la terre, au loyer de la terre? Sachant qu'un hectare de terre, celui d'une ferme, se loue en moyenne entre 25 et 50 livres, qu'une seigneurie grande comme celle de Corneuil rapporte 300-350 livres, ça veut dire qu'elle rapporte l'équivalent de la location de 7 hectares de terre. Pour d'autres seigneuries, ce rapport est nettement moins. Corneuil est une seigneurie qui rapporte pas mal d'argent à son propriétaire. En moyenne, à l'hectare, le cens seigneurial varie d'un demi sous sol à 7 sols, d'après mes indications, d'après ce que j'ai trouvé dans le département de l'Eure. Donc à l'hectare, 1 sou, 2 sous, 3 sous, 5 sous, 6 sous, voire un peu plus, mais un hectare de terre se loue entre 25 et 50 livres. Donc il y a 20 sous dans une livre. Hein. Donc ça veut dire que c'est quand même très peu de choses au total. Et lorsqu'on examine d'autres sources fiscales, comme les registres de 20e foncier, par exemple, les seigneurs paient des 20e fonciers sur les droits seigneuriaux qu'ils prélèvent. Jamais ces 20e fonciers sur les droits seigneuriaux ne représentent plus de 10% de la totalité de leur impôt. Autant dire que les redevances seigneuriales ne représentent pas grand-chose. C'est sans doute élevé pour ceux qui paient, hein, cela dit. Il faudrait se positionner de l'autre côté. Ces redevances seigneuriales ne sont pas grand-chose par rapport aux revenus de la réserve qui peut être exploité directement par le propriétaire ou qui est le plus souvent loué. Alors au bout du compte, et je vais conclure rapidement, qu'est-ce qu'on peut tirer de cette litanie de plans ? Je suis déçu parce que j'ai passé énormément de temps, parce que finalement, je ne suis pas capable d'avoir une vision d'ensemble de ce qu'est la réserve seigneuriale dans le département. Chaque fois, j'ai dit, ben oui, mais ça varie d'une région à l'autre, ça varie d'une paroisse à l'autre. Dans la même paroisse, on se retrouve avec des situations différentes. C'est-à-dire que ce n'est pas sérieux comme type de travail. Bon, il y a peut-être une plus grande dispersion dans certaines régions, mais je ne suis pas capable de le cartographier au total. Il y a peut-être une plus grande concentration dans le Vexin normand. Ben oui, bon, si ce n'est peut-être pas la peine de décalquer tant de plans pour arriver à cette conclusion-là, deux ou trois auraient suffi. C'est vrai qu'il manque des informations sur les seigneuries de l'ouest du département. La réserve a évolué dans le temps, mais on n'arrive pas à la saisir, du moins d'après les documents que j'ai utilisés, pour connaître l'évolution exacte de la réserve ou de la propriété propre du seigneur, dont j'ai dit tout à l'heure que ce n'était pas nécessairement la même chose. Il faudrait regarder les registres de formalité, étudier l'évolution de la propriété, ce qu'on appelle aujourd'hui l'enregistrement en quelque sorte, les registres de vente, d'achat, d'échange, de fief, etc. Je l'ai fait pour quelques communes dans le département de l'Eure à la fin du XVIIIe siècle. C'est un travail de titan et qui apportera sans doute des renseignements. Est-ce qu'on a vendu, acheté les parcelles qui sont les plus éloignées du manoir seigneurial ? Ça pourrait être intéressant de le savoir. Mais je n'ai pas assez d'informations pour pouvoir aboutir à une conclusion. En fait, je me demande s'il ne faudrait pas s'en tenir simplement à une seigneurie, à condition de bien la choisir, de la suivre dans le temps, à condition qu'il y ait des documents pour le faire, parce que c'est bien joli de dire on va prendre une seigneurie, oui, mais s'il y a les seigneuries de la commanderie de Renneville, à côté du Neubourg, qu'on doit pouvoir suivre parce qu'il y a une vingtaine de terriers, gâche-plège ou cueilloirs qui s'étalent sur 3-4 siècles, et on devrait donc pouvoir suivre une évolution. Sauf que les commanderies sont des propriétaires particuliers, des seigneurs aussi particuliers, qui ne reflèteraient peut-être pas le type même de la seigneurie aristocratique ou roturière qu'on connaît à travers les siècles. Je suis parvenu à quelque chose dont je ne suis pas extraordinairement content. Merci.